Bienvenue à Connexion vous répond. On a une question formidable aujourd'hui qui vient de Benjamin. On dit souvent que le Saint-Esprit et la conversion sont liés. Entre parenthèses, on ne peut pas être sauvé en dehors de l'œuvre de régénération que l'Esprit fait en nous. Comment les gens étaient-ils sauvés avant la venue du Saint-Esprit dans Actes 2? Les apôtres n'étaient-ils pas sauvés avant ce moment? Et qu'en était-il des saints de l'Ancien Testament? Alors pour résumer cela, quel était le rôle du Saint-Esprit avant et après la venue de Jésus-Christ? Alors, c'est une question super qui vient suite au message de ce dimanche passé, que j'attends depuis un certain moment, même avant. Il faut savoir que c'est une question qui fait pas mal de débats dans les cercles théologiques. Alors du coup, je vais vous donner l'avis que je ne partage pas. Et je vais être aussi juste que possible dans mon explication parce que cet avis n'est pas sans fondement non plus. Et puis je vais vous donner mon avis. Certains théologiens diront que les saints de l'Ancien Testament et ceux qui ont cru en Jésus avant la venue de l'Esprit dans Actes 2 ont fait la même expérience que nous qui venons après. Et que dans Actes 2, nous voyons la descente d'une puissance particulière pour un moment particulier tout court. Et ils disent cela parce que, tu avais raison de le souligner dans ta question, les apôtres et les saints de l'Ancien Testament semblent bel et bien convertis avant Acte 2. Paul va même dire que Abraham avait la foi en Dieu et que cette foi lui a été imputée comme justice. Et on le voit dans Romains 4, verset 9. Alors, il ne peut pas y avoir de doute que les saints de l'Ancien Testament avaient bien la foi en le Messie et que c'est l'Esprit qui leur a donné cette foi. Alors, du coup, selon cette position, la différence entre l'œuvre de l'Esprit dans l'Ancien Testament et l'œuvre de l'Esprit dans le Nouveau Testament, c'est une différence de degré et non pas une différence de fait. Il fait la même chose depuis le début, mais il le fait simplement de manière plus extraordinaire dans le livre des Actes, en particulier dans Acte 2. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cela. La première raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cela, la plus basique, se trouve dans deux versets, ou trois versets, pardon, dans Jean chapitre 7. Donc Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Jésus dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Okay? Donc dans ce texte, on voit qu'avant que Jésus soit élevé dans sa gloire, c'est-à-dire crucifié, ressuscité, monté au ciel et assis à la droite de Dieu, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Jean ne dit pas que l'Esprit avait été donné dans le passé, mais un peu moins, il dit que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Point. Alors, il ne s'agit pas d'une différence de degré, à mon avis. Je crois que l'œuvre de l'Esprit n'était pas seulement plus grand à partir du livre des Actes, à partir d'Acte 2, mais qu'il a commencé à faire quelque chose de foncièrement différent à partir d'Acte 2. Alors, avant de voir quelle est cette chose différente qu'il fait, attention, juste pour que ce soit clair, je ne dis pas que l'Esprit de Dieu lui-même a changé. Et je ne dis pas que beaucoup des choses qu'on le voit faire dans le Nouveau Testament, il ne faisait pas déjà aussi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit donnait la foi, il faisait que les gens grandissent dans la sainteté, il donnait de la puissance pour des tâches précises, il inspirait la rédaction de l'Écriture, pas la moindre des choses quand même. On a vu il y a quelque temps le concept théologique des opérations inséparables de la Trinité. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il fait dans les trois personnes de la Trinité, toujours. Alors si Dieu a jamais fait quoi que ce soit, c'était par l'Esprit. C'était le Père, le Fils et l'Esprit qui travaillaient ensemble. Mais on le voit quand même faire des choses différentes à des moments différents de l'histoire. Le plan de Dieu s'accomplit dans l'histoire humaine. Dieu a décrété le pardon des péchés par la mort de son Fils une éternité avant de créer le monde. Et pourtant, son Fils s'est fait crucifier pour nos péchés à un moment précis, il y a 2000 ans. Pas avant. Le pardon des péchés que Dieu donnait avant était en anticipation de cet événement historique. Et je crois qu'on voit quelque chose de similaire dans Acte 2 et depuis Acte 2 jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit travaille et œuvre dans ce monde depuis la création du monde. Et on voit son œuvre en le peuple de Dieu, tous ceux qui auraient la foi en Dieu, depuis le début aussi. Mais avant l'ascension de Christ, avant le jour de la Pentecôte, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Alors du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, à partir d'Acte 2, on commence à entendre une certaine façon de parler de l'action de l'Esprit, qu'on n'entendait pas trop avant. Cette façon de parler varie pas mal selon le texte, mais on peut résumer tout cela en disant qu'à partir du jour de la Pentecôte, l'Esprit ne travaille pas seulement en les enfants de Dieu, il ne remplit pas seulement de temps en temps ses enfants pour accomplir une tâche précise. À partir du jour de la Pentecôte, l'Esprit vit en ses enfants, collectivement et individuellement. Cette réalité s'exprime par des manières bien diverses. Ésaïe a prédit le jour où l'Esprit serait déversé sur tout le peuple de Dieu, Ésaïe 44, verset 3. Ézéchiel a parlé de Dieu qui mettrait son esprit en nous, Ézéchiel 36, versets 25 et 27. Et à partir d'acte 2, c'est ce qu'on voit. Pierre dit à la foule, juste après la venue de l'Esprit, qu'ils peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit-Saint, en Corinthiens 3, 16 et 6, 19. Il appelle l'Église l'habitation de Dieu en esprit, Éphésiens 2, 22. Il dit que l'Esprit habite en nous, Romains 8, 9 à 11. Il dit que nous avons été scellés par l'Esprit, Éphésiens 1, 13, 2 Corinthiens 1, 22 et Éphésiens 4, verset 30. Et c'est grâce à l'Esprit qui vit en nous que Jésus-Christ est avec nous toujours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, verset 20. L'Esprit a toujours été à l'œuvre et son œuvre a toujours été immense et une grâce envers le peuple de Dieu. Mais nous qui vivons après l'ascension de Jésus-Christ, nous bénéficions d'une expérience encore plus merveilleuse que les saints qui venaient avant, celle d'avoir l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui ne nous remplit pas seulement pour des tâches particulières, même s'il fait encore ça, mais qui nous remplit continuellement pour toutes les tâches, qui nous rend capables de tout faire pour la gloire de Dieu. Le Père a toujours agi, le Fils a toujours agi et l'Esprit a toujours agi. Mais dans sa sagesse, Dieu a prévu que le Fils fasse quelque chose de particulier à partir d'un certain moment dans l'histoire et que l'Esprit fasse quelque chose de particulier à partir d'un certain moment dans l'histoire. Et c'est cela, je crois, qu'on voit à partir d'acte 2 et qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la question. J'espère que ça a été clair. Continuez de nous envoyer des questions. À très bientôt.